BFM Politique, vous suivez également sur BFM Business avec Edwige Chevrillon, David Doucan. Notre invité, donc, eurodéputé écologiste, c'est Yannick Jadot. Je voudrais commencer avec cette polémique, c'est la polémique de la semaine, ça se passe à Trappes. Le maire de la ville est sous protection, le préfet est sous protection policière, tout comme le professeur de philosophie Didier Lemaire. Il s'est passé quoi, Yannick Jadot, à votre avis, pour qu'on en arrive là où tous les protagonistes se retrouvent sous protection policière ?
On voit à quel point un emballement médiatique, un emballement sur les réseaux sociaux peut conduire à une forme de situation totalement aberrante où finalement, comme vous le dites, évidemment, il faut protéger les professeurs menacés, il faut maintenant protéger les élus, il faut protéger un préfet autour d'un sujet hautement inflammable, qui est celui de l'islamisme, qui est devenu une forme de sujet dont tout le monde s'empare parfois à tort, tweet, menace avant de réfléchir, et on voit à quel point aussi des responsables politiques en font aujourd'hui un sujet, l'instrumentalisent okay. Les faits. Mais on a vu les réactions tout de suite sur les réseaux, y compris de Valérie Pécresse qui attaque le maire de Trappes,
la présidente de la région Île-de-France et le président des présidents de région, Renaud Muselier, qui ont demandé la suspension
Alors que le préfet vient en soutien du maire de Trappes pour dire à quel point ils travaillent ensemble au combat contre les ennemis de la République, contre le communautarisme, contre l'islamisme. Et un maire qui défend sa ville. Il ne nie pas les difficultés qu'il y a à Trappes, mais il rappelle avec justesse à quel point les maires aujourd'hui sont les poilus de la République, notamment mais dans les banlieues, et qu'ils défendent à la fois conscients des difficultés, mais qu'ils défendent aussi toutes les énergies vitales, toutes les initiatives qu'il y a dans Yannick leur ville, qui ne méritent pas d'être stigmatisées.
Qu'on comprenne bien quand vous dites que Valérie Pécresse ou Renaud Muselier instrumentalisent les faits, Ali Rabé, le maire de Trappes, n'est pas allé tracter à l'intérieur du lycée.
Je regrette, c'est une erreur. C'est une erreur.
Parce que c'est une erreur. On le rappelle pour les téléspectateurs, oui. C'est interdit par la loi.
Non, mais c'est
d'entrer dans un lycée pour distribuer des tracts. Etc.
C'est une erreur. D'accord. Dans cette situation-là, je l'ai dit, le professeur, s'il doit y avoir quand même une leçon de ce qui s'est passé avec Samuel Paty, c'est qu'il faut absolument protéger nos enseignants. Mmh. La deuxième leçon, c'est que l'école est un sanctuaire. L'école est un sanctuaire, et vous avez raison de le souligner, Ali Rabé ne devait pas entrer dans l'école. Mais ce que j'entends aussi, c'est pour ces mères qui, depuis un an, font face à des difficultés décuplées par l'épidémie. Ce sont déjà des villes compliquées au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité, au niveau de la détresse sociale. Ils sont tous les jours sur le terrain, tous les jours au front. C'est là, c'est dans ces villes qu'il y a les files d'attente pour l'aide alimentaire. C'est dans ces villes où, moi j'étais, pas à Trappes, mais j'étais la semaine dernière, dans certains quartiers à Lorient. Et Lorient, c'est pas la ville où les quartiers sont les plus difficiles en France. Mais ce que font les associations, c'est d'aller toquer à chaque porte pour savoir si les personnes mangent à leur faim, oui. Pour savoir s'il y a encore un peu de chauffage.
Mais on vous entend défendre...
Ce que je veux dire, c'est que oui. Dans ces moments-là, extrêmement sensibles, il faut que chacune et oui. Chacun ait la responsabilité de prendre de la hauteur, de se mettre ensemble autour de la table ouais. Pour traiter les questions lourdes
vous
que
défendez,
connaissent ces quartiers.
Je vous ai entendu à l'instant défendre le maire de Trappes, oui. Ali Rabé, dont l'élection a été annulée pour manquement au code électoral. Il est toujours en poste parce qu'il a fait appel.
Ça, c'est un autre sujet.
Mais non, mais attendez,
je suis désolé, mais
il faut qu'on s'interroge.
Ce que vous êtes en train de nous dire.
Est-ce que ce sont des alliés qui, pour vous, sont un atout?
Non, ce que vous êtes en train de dire. Il y a la justice qui fait son travail.
Oui.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, vous êtes en train de justifier que l'opposition ait instrumentalisé les déclarations d'un professeur de philosophie pour foutre le bazar dans la politique locale. Franchement, chacune et chacun, dans ce moment-là, doit être à la hauteur des responsabilités. La justice fait son travail ouais. Sur l'élection. Il ne vous a pas échappé que le préfet, qui n'est pas un préfet écologiste, Le préfet a défendu avec courage et responsabilité ce que l'action du maire de Trappes, en disant qu'on travaille beaucoup mieux avec ce maire-là qu'avec le précédent. Et il a défendu aussi le fait qu'il n'y avait pas de raison de stigmatiser les populations de Trappes de cette manière-là. Donc, un, on défend et on protège les professeurs. On défend et on protège les maires. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation totalement dingue où on doit protéger de menaces de mort un préfet. Et chacune, chacun prend la responsabilité de ne pas jouer avec ces sujets inflammables.
Je voudrais qu'on parle du contexte.
Oui, Yannick Jadot, bonjour. Effectivement, ça s'inscrit dans un contexte où la loi sur le séparatisme a donc été examinée à l'Assemblée nationale. L'examen qui, je crois qu'il y a 313 amendements qui ont été déposés. Est-ce qu'on peut dire quand même que ce texte donne enfin à la France un véritable outil pour lutter contre l'islamisme radical et toute déviation radicale?
C'est le souhait qu'on doit tous avoir. Je l'ai dit, vous le savez, depuis des mois. J'ai dit à quel point il fallait se donner tous les moyens de lutter contre l'islamisme radical, de le dénommer comme tel, et de combattre tous les ennemis de la République. Ça fait plusieurs mois que je dis à quel point il faut renforcer les contrôles sur les associations. Lutter contre toutes les complaisances et les ingérences extérieures.
Mais est-ce que ce texte le permet?
Malheureusement, je crains que non.
Pourquoi?
Vous savez, parce qu'il
précise bien les choses.
Typiquement sur le contrôle des associations.
Oui.
Vous avez, pour les associations cultuelles relevant de la loi 1905, vous avez un outil qui s'appelle l'inspection générale des finances. C'est à Bercy, à partir de Bercy, qu'on doit contrôler ces associations-là. Pour les associations 1901, ce sont le plus souvent les cours régionales des comptes pour étudier notamment toutes les subventions qui viennent des collectivités locales. On rentre dans un débat et on n'a aucune indication sur le travail réalisé par l'inspection générale des finances. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas si aujourd'hui on a les outils, les moyens de contrôler ou pas? Est-ce qu'on le fait ou pas? Eh bien, la loi ne répond pas à cette question de savoir quel est le travail déjà engagé. Deuxième point.
Donc plus de transparence,
sur la haine
plus de précision,
en ligne.
Oui.
Sur la haine en ligne. Tout le monde sait aujourd'hui qu'un des enjeux majeurs, c'est de renforcer la plateforme Pharos. Est-ce que plutôt que de faire des grands discours, des grands débats à la télé, où on est dans la confusion la plus totale, pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas le nombre de policiers, gendarmes, qui travaillent sur la plateforme Pharos? Comment on va renforcer cette plateforme Pharos pour que, quand il y a une alerte, elle soit effectivement une alerte efficace en termes de protection? Eh bien, moi, je n'ai pas tous ces éléments-là qui me permettent de dire que cette loi va nous aider à lutter contre le séparatisme.
Il ne manquait rien
deuxième
pour vous,
chose.
Yannick Jadot,
deuxième
il
ne
manquait rien.
Deuxième
hier,
chose.
J'ai interrogé Éric Piolle, qui est maire écologiste de Grenoble. Il dit qu'il y avait tout ce qu'il fallait avec la loi 1905. Et un peu plus tard dans mon émission, François Pupponi, on ne peut pas lui reprocher d'être un marcheur de la première heure, l'ancien maire de Sarcelles, il dit non, il nous manquait plein d'éléments, il nous manquait plein d'outils pour lutter efficacement.
Vous rendez compte qu'on arrive sur un sujet hautement sensible et important. On arrive à ne pas savoir où sont les réelles failles dans la mise en œuvre des lois existantes et où on a besoin de corriger les lois existantes pour renforcer nos outils. Et puis, il y a une deuxième chose. Il faut lutter contre les ennemis de la République, mais la seule façon de tenir la République, c'est de tenir la promesse républicaine. Et vous savez à quel point, y compris dans la majorité aujourd'hui, les élus dénoncent l'insuffisance de l'action de l'État pour lutter contre la ghettoïsation, pour lutter contre les discriminations, pour remettre du social dans les quartiers.
Bah, le gouvernement vient d'annoncer 3,3 milliards de fonds pour l'égalité
des
chances.
Des maires de banlieue. Je ne sais pas si vous aviez suivi l'appel des 200 maires de banlieue, de quartiers en difficulté, de toute la France, et de tout le spectre politique. Ils disent, la mise en œuvre du plan Borloo, qui a été construit, ce n'est pas la question, ce n'est pas Borloo. La question, c'est tout le travail qui a été fait avec les élus de terrain, avec les acteurs sociaux de terrain. Ils disent, Le plan Borloo aujourd'hui, la mise en œuvre, c'est 3 sur 20 pour le gouvernement. 3 sur 20.
Non, mais le gouvernement vient de dire 3 milliards. En fait, vous dites
ça suffit pas.
Non, mais,
ça suffit pas.
C'est quoi,
excusez-moi.
C'est une question de volume.
Mais on voyait bien que la loi SRU, donc qui garantit, qui travaille à la mixité sociale, il y a encore tellement de villes qui ne l'appliquent pas et les préfets ne font pas leur boulot pour enlever les compétences aux maires quand la loi SRU n'est pas appliquée.
Le gouvernement
vous
met 3 milliards.
Ce gouvernement,
vous mettriez combien,
ce
vous
gouvernement,
combien Yannick Jadot?
Moi, je dis qu'il faut passer la loi SRU à 30%. C'est ce que disent tous les acteurs qui travaillent sur la question de mixité sociale. D'ailleurs, avec un maximum à 40% pour éviter justement la ghettoisation. Vous savez que ce gouvernement a supprimé tous les emplois aidés dans les associations qui tenaient encore un peu debout ces quartiers. Quand on lutte contre les ennemis de la République, on ne les laisse pas s'emparer ou on ne les laisse pas se substituer à la puissance publique. Quand il y a des associations...
Dans ce que vous dites et qui fait écho à l'actualité, c'est très important et c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. La question, c'est l'application des mesures.
Oui.
Vous dites à l'instant, les préfets doivent pouvoir, mais même avec d'autres moyens, les préfets, ils ne pourront pas plus appliquer qu'ils le font aujourd'hui.
Bien sûr que si. Pourquoi, quand une ville n'applique pas la loi, pourquoi est-ce que ce n'est pas le préfet, au nom de l'État, qui se substitue au maire pour faire appliquer un enjeu majeur dans notre société, qui est la mixité sociale?
Mais vous savez bien qu'il y a un problème de prix du foncier aussi, qui compte beaucoup.
Mais regardez,
quand vous êtes dans des villes...
La ville de Lyon, j'y étais il y a quelques jours. Ils sont en train de mettre en place, justement, ils ont remplacé un projet de centre-ville qui n'était pas un projet de mixité sociale pour faire du logement social, parce que c'est une promesse des écologistes. Il n'y a pas de progrès écologiste, environnemental, sans progrès social. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Une partie des logements vont être accessibles, vous savez, avec ce nouveau système de bail qui permet justement à la ville d'être propriétaire du foncier. Et donc, en fait, quand vous achetez ou quand vous accédez à la propriété sur un logement social, vous le payez bien moins cher que le prix de marché. C'est une façon pour les collectivités de favoriser l'accès au logement social, y compris dans des zones en tension. Mais je voulais parler des associations. Ces banlieues ont besoin d'associations. Quand il n'y a plus les associations, qu'elles soient confessionnelles modérées ou qu'elles soient laïques, pour s'occuper des devoirs à l'école, pour s'occuper de l'aide alimentaire, pour s'occuper du sport, de toutes les solidarités, et bien à un moment donné, effectivement, vous avez des associations de type ou d'obédience ou de doctrine ultra-réactionnaire ou salafiste qui s'emparent de la solidarité. Et quand on en est là, on a échoué.
Qui a priori ne pourront plus le faire avec ce nouveau texte.
Oui, mais attention, vous voyez bien que partout, toutes les associations qui travaillent dans ces quartiers notamment, et ailleurs, elles se disent, pourquoi est-ce que l'État fait loi au bazooka sur toutes les associations? Vous vous rendez compte, toutes les associations qui ont 10 000 euros de budget, elles se disent, mais maintenant, il va falloir qu'on ait quasiment faire examiner nos comptes. Tous les ans, ça va nous coûter 2 000 euros. Comment on va survivre? Et donc, il y a, à travers cette loi, le risque de manquer totalement l'objectif de cibler précisément là où il y a islamisme radical, là où il y a dérive, et puis surtout cette loi ne permet pas de tenir la promesse républicaine.
Je voudrais avancer, mais je suis obligé de réagir à ce que vous venez de dire. Comment est-ce que vous ciblez précisément ce qui est, pour reprendre vos termes, de l'islamisme radical? C'est bien la difficulté du législateur et c'est bien la difficulté de l'exécutif. C'est de déceler quelle association est concernée. Vous vous dites qu'on est au bazooka, il faut être précis.
Ça s'appelle du renseignement
ouais.
à l'échelle locale. Ça s'appelle remettre des forces de police dans les quartiers. Ça s'appelle faire travailler ces forces de police. C'est ce que sont en train de faire les maires écologistes avec les magistrats, avec les acteurs sociaux, avec l'éducation nationale, pour identifier tous les signaux qui permettent de voir qu'il y a une dérive de ce point de vue-là. Et donc, à partir de là, d'agir, de contrôler. Mais si vous voulez, simplement faire... Et puis franchement, s'il devait y avoir un élément qui, moi, me confirmerait dans l'idée que cette loi ne veut pas être efficace, c'est le débat Darmanin-Le Pen. Ah. On va en reparler. Attendez, c'est quand même extrêmement grave. Ils nous ont fait la Saint-Valentin 4 jours avant la date. C'est quand même effrayant d'avoir un président de la République, un gouvernement qui se construit, dont la seule légitimité aujourd'hui revendiquée, c'est d'être le rempart à l'extrême droite et de faire ce pas de deux.
On parlera de ces questions politiques dans un instant.
Il y a un sujet
qui est très important sur lequel je voudrais vous entendre.
Une autre actualité
qui a marqué l'opinion ces derniers jours.
C'était sidérant.
Yannick Jadot,
c'était scandaleux.
C'est la multiplication des témoignages de victimes de viol et d'inceste. Il y a eu une tribune, vous l'avez vu, rédigée par Tristan Bannon. 164 personnalités l'ont signée. Le titre, c'était « Avant 15 ans, c'est non ». En gros, qui veut fixer l'âge de non-consentement à 15 ans. On va dire les choses à 99,9%, ce sera dans le texte. Votre avis sur ce sujet ?
Il faut évidemment fixer l'âge à 15 ans. Les propositions du ministre Dupond-Moretti vont dans le bon sens, incontestablement. Pour moi, quand il s'agit d'inceste, il faut que ce soit la majorité. Et y compris, je veux dire même, l'inceste, même au-delà de la majorité, doit rester un crime. Moi, là où je trouve qu'il y a... je sais qu'il y a un débat dans la justice, dans la société. Pour moi, ces crimes doivent être imprescriptibles. Ils doivent être imprescriptibles. Le signal envoyé aux auteurs de ces crimes, c'est que dès que la parole sera libérée, elle sera entendue et les auteurs de ces crimes seront pénalement sanctionnés.
Oui, le gouvernement a fermé cette porte par la voix d'Éric Dupond-Moretti. Sur la libération de la parole, justement, Yannick Jadot, est-ce que les accusations pour crimes sexuels doivent être portées sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est le bon lieu ? Est-ce que, comme Gérald Darmanin le disait jeudi soir, vous ne pensez pas que le mieux, c'est d'écrire au procureur de la République, d'aller porter plainte ? Quel est votre point de vue là-dessus ?
Il y a eu un tel couvercle sur les violences sexuelles. Sur l'inceste, il y a toujours un tel couvercle dans la société, dans la famille. Et quand je dis dans la société, ça veut dire qu'à un moment donné, aller dans un commissariat, aller dans une gendarmerie pour dire sa vie ravagée, pour décrire ce qu'ont été des actes abominables, c'est très difficile. Alors quand on arrive à soulever un peu le couvercle, que la parole enfin se libère, pardonnez-moi de ne pas être très sélectif sur les moyens que choisissent les victimes pour enfin parler.
Bien sûr. Et les dommages collatéraux possibles ?
Lesquels ?
Accusations mensongères, réputation détruite.
Bien sûr, il faut faire
attention. Est-ce que ça peut arriver aussi ?
Bien sûr que ça, faut faire attention. Et c'est pour ça que la justice doit travailler très vite. C'est pour ça que la justice doit travailler très très vite. Mais aujourd'hui, dans les cas qui ont fait l'actualité. Ce sont des cas que même les auteurs n'ont pas contestés, si on pense par exemple à Olivier Duhamel.
Il y a quand même, on est quand même sidéré par le nombre d'affaires qui sont révélées par les réseaux sociaux, ou un peu, comme vous dites, par tous les canaux possibles. Est-ce que vous diriez qu'en France, il y a quand même une culture du viol, ou il y a eu une culture du viol, comme l'ont dit certaines victimes ?
J'en sais rien s'il y a une culture du viol. Ce qui est sûr, c'est que quand... on est sur un enfant sur dix victime d'inceste. Un enfant sur dix, c'est énorme. Quand vous voyez que ça ne se traduit que par quelques milliers de condamnations, on est dans un rapport entre la réalité des faits, des violences, des vies saccagées et les condamnations qui est insupportable.
Mais vous l'expliquez comment ?
Mais parce que on est dans des sociétés qui ont été très patriarcales, qui restent patriarcales, que la dénonciation de violences sexuelles au sein de la famille, ce sont des violences, au-delà des violences sexuelles, ce sont des violences familiales. Et donc c'est très difficile. Et qu'à partir du moment où il y a le sentiment, et c'est ça qu'il faut casser, il faut casser cette idée, cet a priori que si vous allez à la gendarmerie, vous allez être moqué. Si vous allez à la gendarmerie, la personne que vous désignez, que vous mettez en cause oui. Ne sera pas condamné.
Oui.
Et puis, je l'entends aussi. Il y a des personnes, des associations qui disent à quel point il faut renforcer la sanction, mais à quel point il faut être dans la protection. Et on a peu de structures en France qui protègent les enfants et qui les encadre, les protège des auteurs des crimes. Donc il faut aussi travailler beaucoup plus sur la protection des enfants. Et puis ce n'est pas un hasard. On est dans un pays où la pédopsychiatrie a été sacrifiée. Donc en fait, tout ce qui, encore une fois, toutes les personnes qui peuvent être dans les écoles, en dehors des écoles,
capable de sonner l'alerte,
d'identifier les signaux, et ben il y en a pas assez. Ouais. En réalité, il y en a pas assez.
Yannick Jadot, je voudrais qu'on parle de la pandémie Covid-19 maintenant. La Moselle fait face aux variants, c'est pas le seul département, mais c'est là où c'est le plus prégnant en ce moment. Sans nouvelles mesures restrictives, est-ce que c'est un choix du gouvernement que vous validez?
Non. On a la nécessité absolue aujourd'hui, à la fois évidemment, d'être là aussi très précis sur l'évolution de la pandémie, mais quand vous avez tous les élus locaux, qui demandent un confinement par rapport à la situation pandémique, par rapport aux variants, qu'ils soient britanniques ou sud-africains, que ce soit en Moselle ou maintenant à Dunkerque, pourquoi est-ce qu'on laisse pas et pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas?
Vous savez que c'est pas complètement vrai. Hein. Tous les élus locaux ne le demandent pas. Il y a des élus du sud de la Moselle, par exemple, qui disent chez nous, on est à moins de 150 en taux d'incidence.
Et ben si c'est
on peut pas nous appliquer la même chose qu'ailleurs.
Si ça doit se faire à Metz, ça se fait à Metz. Si ça doit se faire uniquement à Dunkerque et dans le Dunkerquois, ça se fait uniquement dans le Dunkerquois. Mais est-ce qu'à un moment donné, j'entendais le Premier ministre revenir de Moselle et de dire, je vous ai bien écouté, on va décider à Paris.
Ministre de la Santé,
Olivier Véran, qui revient, on va voir à Paris ce qu'on fait pour vous. Notre pays ne peut plus fonctionner comme ça. On doit à un moment être en capacité de s'adapter à des contextes locaux. D'ailleurs, c'est ce qui semblait être la stratégie qui avait évolué de la part du gouvernement, d'être plus à l'écoute des maires, d'être plus à l'écoute des élus locaux, des situations locales. Et moi, je regrette que quand les élus, sur une situation qu'ils jugent aujourd'hui en train d'être... on perd le contrôle, je regrette que le gouvernement ne soit pas plus à l'écoute de ces situations.
Yannick Jadot, on voit bien qu'il y a une évolution dans la stratégie de vaccination du gouvernement. Dans un premier temps, elle était basée sur les conseils scientifiques, sur les déclarations de médecins, des présidents de comités, etc., etc. Et puis tout d'un coup, on voit bien que tout récemment, ça a basculé plutôt, le politique a pris une décision. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ça a été plutôt une bonne décision, en fait, notamment de ne pas reconfiner pour la troisième fois?
Si on peut éviter de confiner, y compris de confiner tout le pays, parce que la situation, notamment de toutes les mesures, du virus, j'allais dire original, ça permet de contrôler la situation. Ce sont les variants qu'on maîtrise mal aujourd'hui. Moi, cette décision-là du président de la République, je peux parfaitement y adhérer aujourd'hui. Ce que je regrette, c'est que quand il l'a prise comme un coup politique. Vous-même, sur vos plateaux, dans Le Parisien, vous avez dit, le coup politique d'Emmanuel Macron, comment il a décidé? On a été quelques jours à savoir pourquoi il avait pris cette décision-là.
On s'est interrogé sur le risque politique.
Non, la question, ce n'est pas le risque politique d'Emmanuel Macron. Mmh. La question, c'est le risque sanitaire des Français.
Bien sûr.
Moi, je le dis depuis le début, je souhaite que, autour des médecins, autour des scientifiques, évidemment, il y ait le président de la République. Là, c'est sa responsabilité.
J'ai pas compris votre réponse. Vous dites dans un premier temps, ensuite vous dites, il met les Français en danger.
Mais parce que les Françaises et les Français qui sont dans une situation de détresse psychologique lourde, ils sont très anxieux, anxieux, angoissés.
Oui.
Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'on leur explique, ils ont besoin qu'il y ait une classe politique qui, y compris, partage le diagnostic fait par le président de la République. Et moi, je regrette qu'il n'y ait toujours pas autour du président de la République les forces politiques, les salariés, les entreprises.
Mais ça, il faut être élu. Il faut être élu. Vous êtes dans l'opposition. Donc vous n'êtes pas associé aux décisions qui relèvent
certes dans la Ve République, mais il y a une Assemblée nationale qui est censée représenter le peuple.
Tout à fait.
Moi, j'aimerais que les forces
de l'Assemblée
nationale...
Les groupes sont reçus par Jean Castex toutes deux semaines à peu près.
Il les reçoit, il les écoute et ils ressortent, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ça ne correspond pas à un partage intelligent du diagnostic, encore une fois, avec toutes ces incertitudes, et notamment parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes.
C'est-à-dire
moi,
que
je
voudriez une
l'intelligence
décision
collégiale,
c'est ça ?
Moi, je voudrais que...
Parce qu'on ne s'en sort jamais. Hein. Enfin, vous savez qu'il y a autant d'avis que de personnalités politiques.
Non, chacun est responsable dans la situation. Enfin, on est quand même un pays qui... Il y a parfois des polémiques. Mais franchement, on est un pays ultra discipliné sur les mesures.
Oui, Yannick Jadot, vous dites, d'un côté, j'applaudis la décision, de l'autre, je la critique. C'est un exemple caractéristique de la difficulté d'avancer ensemble sur ces sujets.
D'accord, là, on me parle d'une décision.
Oui.
Est-ce qu'on a bien travaillé sur les masques, collectivement, avec les maires, avec le secteur privé ? Est-ce qu'on a bien travaillé sur les tests, avec les élus, avec les laboratoires et les laboratoires privés qui attendaient depuis des mois de pouvoir faire des tests ? Est-ce qu'on a bien travaillé sur la stratégie vaccinale ? Non. On n'a pas bien. Est-ce qu'on a bien travaillé sur le séquençage pour se préparer aux variants ? Non. Alors qu'à un moment donné, si vous voulez, les décisions soient prises dans un bunker sans écouter personne, parfois les décisions sont bonnes, parfois elles sont mal ajustées.
Vous
et
avez
moi,
vu
je
sans doute,
l'intelligence collective.
Vous avez vu sans doute ce matin que la Nouvelle-Zélande, alors qui est un pays qui était cité en exemple dans le monde entier pour sa gestion du virus, où il y avait des festivals de musique, 20 000 spectateurs encore il y a 10 jours, reconfine ce matin. Trois jours de reconfinement total après la découverte d'un nouveau foyer de contamination.
Oui, enfin, vous savez, en Nouvelle-Zélande, bon, ça, c'est quand même une île. Ils confinent dès qu'il y a 5 cas.
Oui. Hein. Ouais.
Il faut savoir que dans notre pays, on est toujours, tous les jours, à 300, 350, 400 morts. On ne peut pas se réjouir aujourd'hui de la situation sanitaire dans laquelle nous sommes. Et puis moi, je lance un appel au président de la République.
Oui.
La licence obligatoire. On sait que la seule sortie de la crise, ce sont les vaccins. Mmh. La vaccination, la vaccination, la vaccination. Il faut produire massivement des vaccins. On ne peut pas continuer en Europe et dans le monde à se laisser balloter par les laboratoires pharmaceutiques. Ils ont inventé des vaccins, c'est magnifique.
On a appris à l'instant, Yannick Jadot, que l'Union européenne allait tout faire pour accélérer le processus de validation des nouvelles variations de vaccins.
Ça, c'est normal. Mais la question là, c'est pas simplement le mécanisme d'autorisation. Évidemment, il va plutôt très vite, mécanisme
d'autorisation. Vous parlez de production industrielle.
Moi, je parle de production de vaccins.
C'est pas
aujourd'hui.
Vous savez bien que les usines doivent être modifiées.
Oui, c'est pas simple.
C'est pas qu'une question de licence.
Non, vous avez raison. Je dis pas que c'est simple. Mais franchement, l'économie mondiale est arrêtée. L'économie mondiale est arrêtée. On a en France 8 millions de personnes qui ont besoin des associations d'aide alimentaire pour manger. Je sais pas combien aujourd'hui ne mettent plus le chauffage. On a du décrochage scolaire, on l'a dit, de la détresse lourde psychologique. Est-ce qu'à un moment donné, on continue à considérer
donc
que le secret commercial, le secret commercial est ce qui doit régir notre capacité de vaccination ou en compensant les labos ? En compensant les labos. La question, ce n'est pas de les exproprier. En compensant
les
labos,
aux États-Unis.
On récupère. C'est dans la loi française, c'est dans la loi européenne, c'est dans la loi de l'Organisation mondiale du commerce. Ça s'appelle les licences obligatoires. Vous compensez, vous récupérez le brevet, et donc on peut pas simplement développer la mise en flacon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais qu'on développe la production. Parce que on voit dans notre pays à quel point il va falloir accélérer la vaccination, y compris pour pas être percuté par les variants. Mais si on laisse le reste du monde subir les pandémies,
non seulement c'est
immoral du point de vue humanitaire.
Ouais. Puis par ailleurs, les pays les plus riches se sont engagés aussi à payer pour les pays les plus pauvres.
Oui, mais vous voyez bien que l'Union européenne va mettre 500 millions. Là, l'Union européenne, pour nos vaccins, va probablement dépenser 20 milliards.
Alors justement,
pour le reste du monde, 500 millions.
C'est injuste
pour les personnes qui vivent de l'autre côté de la planète. C'est qu'à un moment donné, on se prendra des variants qui viendront percuter tous les vaccins que nous aurons, y compris inoculer aux Européens.
Non, mais voilà, il a répondu à la question. Enchaîné, Jean-Baptiste.
Avec une question qui est assez simple, puisqu'on parle de ça et des vaccins, pourquoi est-ce que l'Union Européenne ne s'est tournée à aucun moment, en tout cas pas que nous sachions, nous, hein, vers les vaccins russes, vers les vaccins chinois, à situation exceptionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas une géopolitique exceptionnelle à avoir? On sait que les Russes étaient les premiers prêts. Les Chinois ont été les premiers prêts sur le front de la vaccination.
Alors, là où vous avez raison, c'est qu'il faut avoir un principe, c'est que les vaccins ne font pas de politique. Que les États fassent de la politique à travers leurs vaccins, c'est une évidence. Mais les vaccins, dans la situation dans laquelle on est, ne doivent pas faire de politique. Au sens où on ne doit pas regarder le vaccin russe simplement comme le vaccin de Poutine qui maltraite l'ensemble de l'opposition politique, emprisonne, empoisonne. Voilà. Là, s'ils ont un bon vaccin, à un moment donné, il faut l'autoriser. Mais quand vous écoutez les débats, quand vous écoutez les débats scientifiques, à ce stade, il y a débat. Parce qu'ils ont quand même vacciné, vous avez raison, ils ont vacciné avant de faire les tests, en partie. Nous, en Europe, je trouve souhaitable qu'on fasse tous les tests sur les vaccins, et on voit même les difficultés qu'il peut y avoir avec AstraZeneca. Donc, même quand on les autorise, c'est pas totalement simple. Donc, qu'on regarde sérieusement ce que font les Russes et les Chinois, si ce sont des bons vaccins, évidemment, il faut les autoriser. Si c'est douteux, eh bien, on attendra. Mais voyez bien là,
la situation... On ne regarde pas plus près que ça, hein, pour l'instant.
Et voyez bien où est la France. Elle est nulle part. En fait, il y a la haute technologie avec les Allemands, les Britanniques, les Américains. Il y a, j'allais dire, le low cost avec les Chinois et les Russes. Et nous, on est nulle part. Justement, et à un moment donné, on va sortir de ce déclassement.
Et ben justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ce matin? Le patron de Sanofi, Paul Hudson, dit que il confirme qu'ils ont deux vaccins, mais en tous les cas, il ne sortira pas avant la rentrée, enfin septembre, voire fin de l'année. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que vous trouvez que peut-être qu'on aurait dû financer plus, la recherche française, les biotech françaises?
Vous avez raison. Enfin, quand vous regardez, y compris les données de France Stratégie, qui est
le think tank auprès du
Premier ministre, sur les 10 dernières années, moins 26% de fonds pour la recherche en France, en Allemagne, plus 11%, aux États-Unis, plus 16%. À un moment donné, vous le payez. Vous n'investissez pas dans votre recherche, vous le payez. Que ce soit la recherche publique ou la recherche privée, et vous vous déclassez par rapport aux autres pays. Donc on n'a pas assez, on ne soutient pas assez notre recherche publique. Et puis ce sont des choix. La France, le gouvernement a tout misé sur Sanofi. Vous avez une entreprise à Saint-Herblain, juste à côté de Nantes, qui s'appelle Valneva, qui a inventé, a créé un vaccin et qui va le développer en Écosse.
Mais parce que c'est lui qui l'a voulu. C'est l'entreprise qui l'a voulu.
D'accord, mais enfin, entreprises, à un moment donné, si vous voulez, ne voient pas dans l'État ou le gouvernement un partenaire à la hauteur de ses ambitions, ils vont voir ailleurs. Et nous, on a choisi Sanofi. Et donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, merci l'Europe. Merci l'Europe, le fait qu'on ait commandé collectivement du Pfizer, du Moderna, de l'AstraZeneca et de tous les autres, et qu'on ne soit pas, nous, restés plantés avec Sanofi. Mais, juste un dernier mot, Sanofi, on aura besoin de son vaccin. Ne nous trompons pas. On ne sait pas la durée.
C'est pas la même
durée.
Plateforme technologique que les premiers qui sont
non, ils sont plus adaptés aux variants.
On ne connaît pas la durée de protection des vaccins ARN messagers. Il va falloir vacciner le monde entier avec des vaccins plus faciles d'accès, moins chers. Et donc, on aura besoin de toute façon du vaccin Sanofi.
Plus facile à conserver. La vaccination pose aussi une question de société. Est-ce que, selon vous, il faut autoriser certaines personnes, parce qu'elles sont vaccinées, à pratiquer certaines activités, retourner au restaurant, aller au cinéma, le passeport vaccinal, au fond. Est-ce que vous y êtes favorable?
À ce stade, non. À ce stade, non, parce que le passeport vaccinal nécessite, pour commencer à en discuter sérieusement, deux conditions. Un, que toutes celles et tous ceux qui veulent se faire vacciner soient vaccinés. Parce que, objectivement, vous voulez vous faire vacciner, vous ne pouvez pas vous faire vacciner.
Et ça vous empêche,
ça vous empêche d'accéder à des activités. Ce serait totalement injuste. Et deuxièmement, il faut être sûr qu'une fois vacciné, vous ne soyez plus vecteur de contamination.
Parce que pour l'instant, ça ne protège pas justement contre la contamination.
Pour l'instant, on n'a aucune garantie sur le fait qu'une fois vacciné, certes, vous ne développez pas les
formes graves.
Les formes les plus graves de la maladie.
Mais ces conditions remplies, vous pourriez y être favorable.
À ces conditions remplies, une fois que tout le monde aura eu accès au vaccin, et que ça protège, s'il y a des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, on va pas fermer les théâtres, parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui, dans ces conditions, souhaitent s'exclure d'une certaine façon de la discipline collective.
Tiens, justement, à propos, on n'a pas parlé des musées. On a vu Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui a décidé d'ouvrir 4 musées. C'est vrai aussi à Issoudun. Hier, Jean-Baptiste recevait Stéphane Bern qui expliquait qu'une exposition qui avait lieu dans un musée, on ne pouvait pas la voir, mais si on la mettait ailleurs, et là, on
c'est
pouvait
ce qu'on
la
fait
voir.
À Lyon. C'est ce qu'a fait le patron de la métropole de Lyon.
Est-ce
Bruno
que vous
Bernard.
Êtes pour la réouverture des musées? Est-ce que vous dites là, on arrive à une situation ubuesque? Oui.
Oui, c'est totalement ubuesque. Mais c'est dans un musée.
Pas. Vous voulez reconfiner la Moselle, vous voulez rouvrir les musées.
Attendez, c'est regardez.
C'est difficile à suivre.
Non, c'est pas. C'est, regardez ce que, y compris les évaluations faites par le professeur Fontanet. Qu'est-ce qu'ils expliquent sur les foyers de contamination? En réalité, même dans les transports publics bondés, ce ne sont pas des clusters. Dans les magasins, dans les grandes surfaces, dans les centres commerciaux, ce ne sont pas des clusters. Et un musée où vous pouvez totalement planifier la jauge. En Belgique, ça se fait, vous réservez par Internet, vous avez votre quart d'heure extrêmement strict d'arriver dans le musée, et donc vous pouvez rentrer dans un musée. Je ne parle pas qu'il faille ouvrir aujourd'hui les boîtes de nuit.
Je poursuis, pardon, le raisonnement de David, parce que pour le coup, je ne vous suis pas non plus sur le raisonnement, parce que si, vous dites que ce ne sont pas des clusters, et pourquoi reconfiner à ce moment-là? Puisque les clusters, on le sait, la famille, c'est le milieu familial, c'est là que ça se propage. Vous vous dites, en fait, on enferme tout le monde.
Non, je parlais de Metz, de Dunkerque, là où aujourd'hui on a perdu le contrôle, a priori, du développement des variants. Et donc, à partir du moment où vous avez des élus locaux qui disent il faut arrêter l'école et tout ça, évidemment, si on arrête l'école, on arrête les musées. Je suis pas dingue. Mais à partir du moment où on maintient les écoles, et c'est essentiel pour. Mais vous savez, ça fait depuis un an qu'on a commencé cette pandémie. Un an. Je dis. Par rapport aux écoles, notamment, on a des enfants qui sont quand même dans des difficultés très lourdes liées à cette situation, qui comprennent plus ou moins bien. Franchement, on a des sociétés de cars scolaires qui sont aujourd'hui à l'arrêt et qu'on aide par nos impôts pour pas mourir. On a des musées qu'on aide, on a des troupes de théâtre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des demi-groupes d'enfants qui vont au musée, qui vont dans la nature, qui vont voir des répétitions dans les théâtres? On a besoin, y compris, ça peut être un moment, c'est contre-intuitif, mais ça peut être un moment d'épanouissement sur d'autres activités pour les enfants à l'école et un moment de respiration pour nous si on peut aller au musée.
Yannick
on
Jadot,
a besoin de culture, on a besoin de culture.
Je vous ai déjà posé la question la dernière fois que vous êtes venu, la voilà à nouveau. Nous allons vous poser des questions sur vos propositions. Vous faites des propositions? Parce que vous serez candidat à l'élection présidentielle à travers la primaire?
Franchement, là, les Français ne sont pas du tout dans les déclarations de candidature. J'ai fait, à travers la plateforme d'idées que j'ai lancée, avec des centaines et des centaines d'écologistes, qui s'appelle 2022l'écologie.fr, 2022l'écologie.fr, comme ça c'est fait, des propositions qui sont à la fois des propositions d'urgence, mais qui tirent toutes les leçons des crises que nous traversons. Parce que, vous voyez bien, on le sait tous et toutes, cette pandémie, elle ne nous est pas tombée du ciel. Cette pandémie, elle vient de la dégradation environnementale, de la déforestation.
La proximité, manifestement, avec certaines espèces animales.
D'autres virus naissent de l'élevage intensif. On a, et ça commence à nous percuter durement, le dérèglement climatique. On a, et ça n'a pas commencé avec la pandémie, des inégalités sociales qui deviennent intolérables et un désordre démocratique.
Entrons dans le détail de quelques-unes de vos propositions, s'il vous plaît, Yannick Jadot.
Allons-y.
Avec David.
Vous proposez, par exemple, Yannick Jadot, un revenu citoyen pour les plus jeunes, dès 18 ans, en fusionnant le RSA et la prime d'activité. Nos jeunes, qui sont très durement touchés, y compris par la crise pandémique, Ils ont besoin d'aide publique ou d'emploi ?
Et des deux. Des deux, comme celles et ceux qui ont plus de 25 ans. Vous savez, il n'y a pas de... c'est quoi l'idée ? Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de personnes qui passent à travers la raquette quand il s'agit de filets de sécurité sociale. Vous avez, j'étais il y a deux jours à Lyon, vous avez des gamins qui, enfin des jeunes, des jeunes adultes, je dis des gamins parce que c'est l'âge de mes enfants, donc pour moi ça reste des gamins, mais ce sont de jeunes adultes, qui dorment dans la rue, qui dorment dans la rue aujourd'hui, qui essayent de trouver un boulot, qui ne peuvent pas bénéficier du RSA jeune parce que ce gouvernement refuse cette mesure basique de solidarité vis-à-vis de notre jeunesse. Il faut les deux. Vous savez, si vous regardez mes propositions, à la fois, nos jeunes qui sont en grande difficulté, il n'y a pas de raison qu'ils ne profitent pas des outils de protection sociale qui sont disponibles pour tous les adultes. Évidemment, à partir du moment où ils sont indépendants fiscalement. On est clair là-dessus. Bon. Mais toutes les propositions, justement, c'est de leur offrir un avenir. Parce que ces jeunes, aujourd'hui, ils sont dans la précarité sociale, dans la détresse psychologique. Ils ont le dérèglement climatique qui leur tombe sur la tête. On leur promet la dette Covid.
Oui.
Alors justement, au sujet de leur avenir, autre proposition, on aimerait y voir plus.
Non, juste là-dessus. Est-ce que toutes les propositions sont justement pour qu'ils puissent avoir des formations dans lesquelles ils s'accomplissent et qu'ils puissent avoir un travail qui a du sens.
Votre RSA jeune, là, il est soumis à conditions de formation, par exemple, dans votre proposition ?
Non. C'est comme le RSA.
On le touche, d'accord.
C'est comme le RSA. Mais évidemment,
vous ne craignez pas que...
il faut développer comme pour tout le monde.
Ouais. Enfin,
expliquez-moi, dans votre logique, pourquoi, à 26 ans, je touche le RSA. Si je suis en grande difficulté, à 25 ans, je ne le touche pas.
Parce qu'en fait, mais moi, je n'ai pas de logique. C'est la loi française, aujourd'hui, que vous proposez.
Et la logique qui est derrière, c'est de dire qu'il faut d'abord favoriser le fait de trouver un emploi plutôt que le RSA. Sûr, c'est ça, la logique.
Mais moi, j'ai des enfants de cet âge-là. Ouais. Je ne veux pas que leur avenir, ce soit le RSA.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce contrat ?
On est tous d'accord. Alors,
Vous parlez des jeunes et des contrats et de la sécurisation.
Contrat de sécurisation et de transition professionnelle.
Oui.
C'est quelque chose que la CFDT a déjà évoqué, mais
bien sûr.
Pouvez-vous l'expliquer ? Voilà, démarche de pédagogie.
Typiquement, aujourd'hui, vous avez dans l'aéronautique des compétences extraordinaires. Mm-hmm. Des compétences extraordinaires. Et vous avez des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont en chômage partiel. Est-ce que ces centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont dans une industrie de pointe, comme celles et ceux qui se forment pour y entrer. Mmh. Il n'y aura pas autant de postes que, il y a encore un an dans cette industrie aéronautique.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Est-ce que simplement, comme c'est le cas aujourd'hui, on fait du chômage partiel qui dure, mais en sachant qu'à un moment donné, ils vont se faire licencier ? Ou est-ce qu'on se dit, il y a des compétences extraordinaires ? Eh bien, moi, je vous prends... Dans ce secteur-là, je vous fais un contrat de sécurisation professionnelle, vous gardez un revenu, vous ne passez pas par la case chômage, et on va vous orienter, potentiellement avec de la formation si nécessaire, mais vers des secteurs d'avenir où là, il y a du boulot. L'économie circulaire, secteur d'innovation, les énergies renouvelables, on est tellement en retard que si on veut rattraper notre retard, on va créer des centaines de milliers d'emplois.
Ça sert la PLD, l'allocation de la longue durée.
C'est une idée, mais là, l'idée, c'est véritablement, c'est pas simplement de la formation.
Ouais.
C'est la garantie que la transition se fait dans de bonnes conditions sociales d'accompagnement.
Et professionnelles.
Là, on sait à quel point les sociétés qui vont être fortes économiquement et socialement demain sont des sociétés qui anticipent, vous le savez, Madame Chevrillon, qui anticipent les défis et les grands secteurs d'avenir. Et ben les défis, les grands secteurs d'avenir, et ben il faut les soutenir, il faut innover et il faut accompagner les salariés.
Qu'est-ce que vous pensez, c'est un sujet qui a été remis, qui ne date pas d'hier évidemment, mais qui a été remis sur la table par votre allié, ex-allié Benoît Hamon sur le revenu universel. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Ah ben écoutez, le revenu citoyen, le revenu citoyen que je propose, ça rentre totalement dans cette logique-là. C'est pas simplement pour les jeunes. C'est de rendre automatique le fait que quand vous êtes dans une situation dramatique, vous ayez un filet de sécurité. C'est pas beaucoup. Moi, j'ai mis le RSA plus 100 euros. Hein, mmh. C'est ce que demandent dans l'urgence la plupart des associations qui travaillent.
Le temps file, on n'en a plus beaucoup malheureusement, mais puisque vous avez un projet dans le site internet
porte-clamont2022.fr,
voilà, que vous faites des propositions, vous aspirez donc j'imagine à des responsabilités, même si on ne va pas le dire
bien
comme
sûr.
Ça en
cet moment-là. Moi j'aspire totalement à ce que l'écologie gagne en 2022, il n'y a pas de question,
s'il vous plaît, le temps file. Sur la fiscalité, si jamais vous étiez candidat et élu, vous allez retrouver un pays avec une dette abyssale. Oui. Abyssal. Les Français qui vous regardent se disent, mais attendez, nos enfants vont payer, nos petits-enfants vont payer, est-ce que nous on va payer? Comment est-ce que vous allez, vous engager à ce que l'État rembourse ce qu'il doit sans assommer les Français d'impôts?
Mais vous savez que une grande partie de la dette, et notamment de cette dette Covid, c'est une dette BCE, Banque Centrale Européenne, Banque de France.
Ouais.
Aujourd'hui, on s'endette à 50 ans, on s'endette à 0,6%. Je ne sais pas si... Enfin, c'est un truc de fou.
En fait, on
gagne de l'argent à s'endetter. Mmh. On gagne de l'argent à s'endetter. Si on s'endette à 10 ans, c'est des taux négatifs. Mmh. Mmh. Donc, on a absolument besoin, évidemment, aujourd'hui, de protéger pour que notre économie, notre cohésion sociale ne s'effondre pas. Mais on doit maintenant aussi investir dans la réparation de notre société. Prendre soin des personnes. Renforcer nos services publics, dont on voit à quel point ils sont essentiels.
Donc on pourra rembourser sans que les Français paient plus, quoi.
Et investir. Tous les experts, c'est une de mes propositions, disent il nous faut 20 milliards d'investissements publics par an pour réussir la transition écologique.
Hein ? Non mais il vous demande comment rembourser la dette, vous lui dites
mais
on
parce
investit.
Aujourd'hui, en réalité,
c'est pas la
tous les économistes...
Vous,
voilà,
c'est ça
Alors, la figure emblématique de BFM Business vous le dit aujourd'hui en
c'est
fait.
Vous dire.
Quand vous empruntez à 50 ans à ce taux-là, en fait, vous êtes dans un système de dette perpétuelle. Le débat sur l'annulation D'accord. de la dette, il a du sens, mais en réalité, pratiquement,
il a pas aujourd'hui, de sens. Après, selon Christine Lagarde que j'ai reçue la semaine dernière, voilà. Il a pas de sens parce qu'il est illégal. Hein.
C'était illégal de faire plus de 3% de déficit. C'était illégal d'avoir plus de 60% de votre PIB en dette. Aujourd'hui, on est au double. On n'a jamais payé aussi peu de services de la dette. Donc, en fait, la dette n'est pas un problème aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais dès que vous investissez, et c'est ce que je propose aussi. Les populations les plus en difficulté qui vivent dans des passoires énergétiques, on couvre à 100% le coût de la rénovation. Ben, tout ça, c'est rentable. Investir sur l'hôpital, investir sur l'éducation, investir sur, je l'ai dit, la décarbonation de l'économie, sortir du carbone, tout ça est rentable.
Merci Yannick Jadot. Merci d'avoir été notre invité.
C'est déjà fini.
On avait plein d'autres questions, on n'a plus le temps de vous les poser, il faudra revenir. Merci,
merci
Edwige et David.
Merci.
Voici l'affaire suivante avec Dominique Rizet et Philippe Godin. Je vous retrouve à 18h.